BFM Business et CB News présentent Hebdo.com, l'invité média best-of.
Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et de notre journaliste BFM Business, Julien Casqui.
Bonjour Julien. Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
Et puis nous accueillons aujourd'hui Gauthier Normand. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur et le directeur général de ReWorld Media. ReWorld Media est aujourd'hui le deuxième groupe français digital qui touche plus de 37 millions de visiteurs uniques chaque mois. Vous venez de finaliser le rachat d'Unify, le pôle média numérique du groupe TF1, et tout récemment, vous avez annoncé l'acquisition le projet d'acquisition du magazine féminin Gradia et du magazine de mode masculin Icône. Ça fait pas mal de nouveautés, tout ouais. D'abord, rapidement, quelles sont vos ambitions pour Gradia et pour Icône ?
Oui, parfait. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, peut-être quelques mots quand même sur ReWorld Media, vous l'avez présenté, je vous remercie. ReWorld Media, c'est d'abord vient de fêter ses 10 ans, hein, donc c'était il y a quelques mois, donc finalement c'est un groupe assez jeune dans le paysage. ReWorld Media, c'est aussi un groupe français, détenu par ses managers français, coté en bourse à Paris, donc c'est aussi important pour nous cet élément-là. On a récemment fait l'annonce d'une opération qui serait en cours pour reprendre la marque Gradia dans le monde, auprès de son actionnaire actuel Mondadori en Italie. Donc l'objectif de la reprise de cette marque, comme je le disais, donc on a aujourd'hui 80 marques en France. Notre objectif, la stratégie qui avait été affichée depuis quelques années maintenant, c'est de se tourner vers l'international, de continuer à se tourner vers l'international, puisque ReWorld Media réalise déjà 25% de son revenu dans 11 pays aujourd'hui en France. Donc continuer ce développement à l'international. Je pense et nous pensons que ce qui a été réalisé par ReWorld Media, peut-être on y reviendra si c'est possible, mais ce qui a été réalisé par ReWorld Media, en France en tout cas, de devenir leader ou un acteur quasiment leader dans ce marché est duplicable dans les autres pays et surtout en Europe. Donc cette acquisition, c'est un premier pas vers l'internationalisation. Gradia, c'est une marque internationale, je le disais, référente dans la mode de la beauté européenne qui est aujourd'hui éditée dans 21 pays. Et donc, pour nous, cette première acquisition est une manière d'entrer dans les différents pays.
Ouais, c'est ça. Et l'idée, c'est aussi d'agrandir le réseau, de l'étendre dans le monde. Le digital, c'est aussi important que le papier. Comment est-ce que ça va se passer ? Parce que c'est pas évident de piloter un truc, enfin, je veux dire, un réseau comme ça, une démarque comme ça. Icône, c'est plus petit. Hein.
Absolument. Icône n'est que présent en Italie.
En Italie, ouais, c'est ça. Comment est-ce que ça va se passer ? Vous faites des coéditions, vous faites des...
Alors, ouais, absolument. Aujourd'hui, le choix qui a été celui de l'ancien actionnaire, enfin de l'actionnaire actuel,
actuel,
dans le cadre de l'opération qui pourrait être réalisée, mais aujourd'hui l'opération, le déploiement a été fait avec des licences. Donc aujourd'hui, chacun des pays est exploité par des licences d'acteurs, d'ailleurs très souvent référents et dans chacun de leurs pays, qui développent Gradia. Donc effectivement, cette position internationale pourrait nous amener d'une part à accélérer le déploiement de nos propres marques médias, j'en citais quelques-unes au début, dans ces pays.
C'est ouais, l'occasion. Ça sert de...
Voilà, donc évidemment, certaines de nos marques, encore une fois, j'en citais, reprenons au féminin ou Marmiton, pourraient croître et accélérer à l'international grâce à ce réseau. Et Gradia, je le disais, faire bénéficier nos licenciés et peut-être d'autres pays qui seraient lancés en propre de notre expérience digitale.
Justement, les marques que vous citez là font partie d'Unify, que vous avez racheté au début de l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a intéressé chez Unify particulièrement ?
Alors, peut-être quelques mots quand même sur la stratégie pour inclure tout ça. Donc, on a créé ce groupe, je le disais, il y a 10 ans, dans un objectif clair de valorisation et d'investissement dans des marques médias fortes qui sont pour nous la force de prescription et une force institutionnelle qui lui permet et qui nous permet aujourd'hui d'être puissant dans le digital. La stratégie a été systématiquement de garder et de développer tous les canaux de diffusion. Donc là, plus souvent, les marques qui ont été reprises avaient un canal de diffusion historique qui était le magazine, qui a été maintenu, renforcé, réinvesti, et un déploiement digital qui a été principalement permis par le développement de notre propre technologie. On fait partie des rares acteurs européens à être propriétaires de notre technologie, à investir beaucoup et régulièrement dans cette technologie. Et c'est comme ça qu'on s'est construit. Avant l'acquisition d'Unify, je viens à votre question, certains champs n'étaient pas ou peu couverts, en tout cas champs de thématiques ou bassins d'audience n'étaient pas un peu couverts. On peut prendre l'exemple de Marmiton, par exemple, qui est aujourd'hui la marque référente digitale en cuisine, qui n'était pas ou peu couvert. Donc très clairement, une des raisons de l'investissement a été d'aller couvrir et d'éteindre le bassin d'audience.
Et qu'est-ce qui fait que vous allez réussir pour Unify. TF1 s'est un peu cassé les dents avec, en rachetant Unify. Pourquoi vous allez faire décoller toutes les marques d'Unify?
Alors, les marques d'Unify, c'est d'abord des marques pionnières dans le digital en France. Hein, souvenez-vous, au féminin, Marmiton, c'est Doctissimo, pour ne citer que. Donc, simplement, je veux vous dire que ces marques étaient bien avant d'être propriétaires de TF1, déjà iconiques et les pionnières dans le média digital en France. Mmh. Ça, c'est un premier point. Donc, ça reste encore aujourd'hui des marques très fortes. Je ne ferai pas de commentaires sur le parcours de TF1, si vous me permettez. En revanche, très clairement, ils s'insèrent dans notre stratégie de déploiement qui, je l'ai dit, est très tournée vers notre propriété de technologie et notre propriété de contenu de qualité. Et j'ai envie de vous dire, on réussira comme on l'a démontré la réussite qu'on a faite dans les dernières acquisitions.
C'est des marques que vous allez développer à votre manière. D'habitude, vous avez, comme vous l'aviez dit d'ailleurs, vous achetiez plutôt des magazines que vous digitalisiez.
Oui.
Là, c'est des marques digitales qui peuvent, Marmiton, avoir des versions papier, mais c'est pas leur métier de base. Donc là, vous allez faire le contraire, c'est que vous allez les faire des versions papier pour vous appuyer.
Alors, de la même manière que à chaque fois qu'on fait l'acquisition d'une marque, c'est véritablement celle à valeur, le sujet est de diversifier ces canaux d'expression. Donc, effectivement, pour des marques qui étaient magazines, en faire du digital. Pour des marques qui sont plus digital, pourquoi pas aller en faire du magazine puisque
vous y croyez encore, au magazine?
Oui, absolument. On croit énormément à ce métier. On a, pour preuve, lancé 15 magazines les 18 derniers mois. Pardon. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on y croit. Moi, je pense que le business du magazine est un vrai business à l'image de l'édition. C'est-à-dire que quand on réussit à avoir un contenu de qualité, j'insiste, adressé à une cible qui est capable de payer le prix du contenu qu'on produit, il y a un business, on le voit. Aux US, ça se passe très bien.
Il y a un aussi qui a racheté récemment Prisma Media.
Absolument.
C'est une bonne nouvelle, ça, pour le secteur?
Oui, c'est une excellente nouvelle pour le secteur que des grands acteurs qui ont démontré leurs compétences dans ce secteur des médias investissent dans le magazine. Mais finalement, le magazine, je pense que c'est trop réducteur, investissent dans des marques médias puissantes qui ont des capacités de déploiement, dont le canal magazine.
Il n'y a aucune redondance entre ce que vous venez d'acheter chez Unify et ce que vous avez déjà chez vous, ou redondance ou moyen de faire grandir sur certains domaines quand même, non?
Alors, c'est intéressant. Je pense qu'il y a un élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on passait de 27 millions de lecteurs mensuels digitaux avant acquisition à 39 millions de lecteurs mensuels. Donc, premier élément, le bassin d'audience croît considérablement. Ça fait de nous des acteurs en puissance plus puissants que Snapchat, plus puissants qu'Amazon en France, c'est simplement pour se remettre dans le contexte. Ça fait de nous, enfin, une vraie alternative sérieuse aux GAFA pour nos annonceurs. Donc ça, déjà, ça nous...
Vraiment ?
Non. Ça fait de nous une alternative sérieuse en tant que bassin d'audience, en tant que propriétaire de la technologie et en tant que fédération d'audience qualifiée.
Des journalistes de Science et Vie sont partis en 2021 car ils reprochaient à Reworld Media d'avoir confié la gestion du site internet à des chargés de contenu non journalistiques qui pouvaient cumuler des erreurs et qui reprochaient un manque d'effectifs. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Est-ce que ce sont véritablement des journalistes ou est-ce que ça peut être aussi un peu des créateurs de contenu de temps en temps?
Alors, d'abord, je vous remercie de me poser la question, parce que ça a fait couler beaucoup d'encre, et c'est toujours intéressant d'en parler avec le principal concerné que je suis. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut être le premier acteur magazine en France et une des plus grosses plateformes digitales françaises de médias sans journaliste? Je pense que c'est évidemment impossible. Je pense que toutes ces histoires, et je ne veux pas revenir plus précisément sur le cas de Sciences et Vie, mais je pense que tout ça a été beaucoup de bruit qui se sont passés déjà il y a 3 ans. Moi, je préfère mettre tout ça derrière moi. Je peux vous donner quelques éléments très factuels. Le groupe est évidemment un des plus gros employeurs de journalistes en français. On travaille avec 800 journalistes aujourd'hui dans le groupe. Donc ça veut dire que, très clairement, non seulement la caution et la qualité éditoriale d'un journaliste est importante, mais elle est indispensable dans le déroulé de notre stratégie. Donc évidemment, on travaille beaucoup avec des journalistes compétents, puisque le journaliste compétent est le seul capable d'écrire et de produire du contenu qui pourra faire lire nos comptes.
Ce que j'essaie de comprendre, c'est juste qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Il n'y a pas de fumée sans feu.
Et puis la limite est fine. Ce sont des métiers qui se ressemblent, et tant mieux.
Absolument, tout à fait. C'est pour ça que j'insistais sur le fait que, évidemment, ce n'est pas crédible d'imaginer de ne pas avoir de journalistes. Nous sommes le plus gros employeur de journalistes français, c'est un fait. Nous travaillons avec 800 journalistes aujourd'hui, c'est également un fait. Et mon objectif et mon ambition est simplement d'avoir sans arrêt les meilleurs experts au meilleur moment pour écrire les meilleurs contenus pour nos lecteurs.
Dernière question, Gauthier Normand. Que pensez-vous du dossier Twitter Elon Musk avec le, voilà, tout le bruit que ça fait, l'assouplissement des règles du contenu de Twitter qui est promis par Elon Musk? Est-ce que ça risque d'entacher la réputation des marques et donc un peu faire fuir les annonceurs, selon vous?
Alors, je me garderais bien de commenter la stratégie d'Elon Musk qui reste ce qu'il est, mais... En revanche, ce qui est important dans cette situation-là, c'est que, et qui va dans le sens de notre stratégie, c'est que finalement, la caution d'une marque média, la caution de son équipe journalistique et écrivante de qualité reste et vont ne faire que renforcer la force de la prescription de ces marques. Et finalement, pour nous, éditeurs de marques médias, c'est une bonne nouvelle.
Merci beaucoup, Gauthier Normand. Vous êtes cofondateur et directeur général de ReWorld Media.
BFM Business, Hebdo.com. Le Focus.com.
Pour le Focus.com, on va parler du marché publicitaire français qui va lourdement ralentir au second semestre. Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef à CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Rebecca.
Et de Julien Casqui, journaliste BFM Business. Bonjour Julien.
Bonjour Rebecca, bonjour à tous.
Et nous allons donc s'intéresser à une étude qui est parue cette semaine sur les investissements publicitaires en France. L'étude a été réalisée par Magna, une autre entité de Media Brands, et révèle le début d'un ralentissement des investissements publicitaires en France. Nous accueillons pour en parler Bertrand Bodichon, vous êtes président d'Initiative France.
Bonjour Rebecca.
Bonjour, merci d'être avec nous. Le premier semestre 2022 fut bon, avec plus 15% de croissance pour le marché de la pub. Comment ça peut changer de bord si rapidement la même année ?
Une crise en Ukraine, absolument inattendue, qui vient en plus d'une crise des matières premières qui était déjà latente depuis la fin de l'année dernière et qui commençait à se ressentir sur certains secteurs, et une crise ukrainienne qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat des gens, avec un gouvernement qui vous dit en plus c'est la fin de la période de l'abondance, et donc à la rentrée, on a très vite vu les effets sur le business d'un certain nombre de secteurs, et avec une crise assez inédite, parce que là c'est pas juste un secteur qui est touché, c'est vraiment énormément de secteurs, et du coup on commence à voir un ralentissement assez net à partir de la rentrée, à partir du mois de septembre, ce qui va peser sur la croissance de l'année, qu'on révise, qui était effectivement à 15% sur le premier semestre. Et au global, on s'attend, nous, chez Magna, à une croissance à 5-8 sur l'ensemble de l'année, ce qui veut dire mécaniquement une forte baisse sur le deuxième semestre, qui en plus était marqué par une très forte croissance l'année précédente. Parce que c'était la fin du Covid,
fin du,
et c'était le retour de tout. Et on avait continué sur cette lancée au premier semestre. Et là, on a un effet de base 2021 qui est très fort, ce qui fait que mécaniquement, on va avoir une baisse sur l'ensemble des médias au deuxième semestre.
L'étude indique que les médias digitaux captent à eux seuls plus de 67% du marché. Pourtant, on n'a pas vraiment l'impression, comme ça, dans la vie courante, qu'il y ait une baisse en plein milieu de l'année de fréquentation du digital. Pourquoi les annonceurs font des économies sur ce terrain-là ?
Alors, en fait, ils font des économies tout court. Et c'est vrai que l'audience du digital n'a jamais été aussi forte, et que les médias linéaires, la télé linéaire a été en très forte baisse d'audience, par exemple, avec moins 14% sur la plupart des cibles de baisse de durée d'audience individuelle. Ce qui sauve l'ensemble des médias anciens, on va dire, c'est finalement leur volet digital. Ce qui sauve la télé cette année, c'est la catch-up. Ce qui sauve la presse, c'est leur audience numérique. Ce qui sauve la radio, c'est l'audio digital.
Les médias audio.
C'est les médias audio. Donc le digital, effectivement, n'a jamais été autant consommé. Et le chiffre de 67% qu'on a mis, c'est combien dans cette croissance captent les GAFA. Donc d'accord, c'est pas le digital. C'est juste les quelques acteurs qui se partagent deux tiers de la croissance du marché. Et on prévoit en 2023 que ces deux tiers vont même devenir 90% de la croissance du marché en 2023.
Et dans le social, il y a le search, la vidéo et le social. Dans le numérique, il y a le search, la vidéo et le social. Absolument. Et apparemment, l'impact est plus important sur le social que sur le search et la vidéo. Pourquoi ?
Oui, alors sur le social, on a des contraintes techniques. Et notamment Meta qui a changé ses règles là je vais rentrer un peu dans le boulon de 12.
Sur la collecte des données.
Sur la collecte des données et le consentement sur iOS 14.
Apple.
Ouais. Apple, c'est les nouvelles règles d'Apple. Et du coup, ça a pesé assez fortement sur l'audience de Meta et sur la capacité de monétiser l'audience de Meta pour le marché publicitaire.
Mais elle n'avait pas été mise en vigueur en 2021.
Ça a commencé fin 2021, donc on a commencé sur cette lancée. Mais là, dès cette année, ça a finalement pesé assez lourdement sur Meta, qui évidemment est l'un des acteurs essentiels du social. Même si TikTok est arrivé en force depuis 2021 et connaît une très forte croissance.
On comprend donc que tous les secteurs font des économies sur leurs dépenses marketing, sauf le secteur du luxe. Pourquoi ?
Parce que la demande du luxe est extrêmement forte. Elle est bizarrement, et d'ailleurs à chaque crise, on s'est aperçu que le luxe était le secteur le moins impacté entre les choix. Et bizarrement, il y a deux secteurs qui fonctionnent bien. C'est ceux où on se fait plaisir, en gros. Ils ont ça en commun, c'est le luxe. Où là, le champagne a fait une année absolument exceptionnelle. La mode fait une année exceptionnelle. La cosmétique beauté, après une année 2020 qui a été très dure, est très très bien repartie. Donc tout le secteur du luxe. Et l'autre secteur qui fonctionne plutôt pas mal, c'est le jouet. Parce que dans les arbitrages, les enfants... Et le luxe,
on n'arrête pas de gâter nos enfants.
Voilà. Passe en premier, exactement.
Frédéric,
il y a quand même un peu d'espoir, peut-être, avec de nouveaux supports comme Netflix. Est-ce que le fait que des Netflix, Disney Plus et autres s'ouvrent à la pub peut avoir, d'une manière ou d'une autre, un impact sur l'envie d'investir de la part des... Ou alors, est-ce que ça va être très marginal et juste de l'ordre de l'expérience ?
Je crois que, enfin, je pense pas. Enfin, c'est assez logique vu la baisse mécanique de l'audience télé. C'est assez logique qu'ils s'ouvrent au marché publicitaire et surtout qu'ils offrent une version moins chère de leur abonnement.
De leurs abonnements.
Et ça tombe bien qu'ils sortent ça à une période de crise, à un moment où les ménages, 5 € de moins par mois, ils y seront très attentifs vu les arbitrages qu'ils auront à faire pour pouvoir profiter des contenus qu'ils ont enlevé et de leur audience qui est partie de la télé et qui est venue sur ces plateformes-là. Les modes de commercialisation des plateformes est encore très balbutiant. Un, c'est très cher par rapport à la télé. C'est très très cher. C'est 10 fois le prix de la télé au coût au contact. Donc il faut être riche quand on est un annonceur
Ça
limite mécaniquement le nombre d'annonceurs. Et en plus, l'autre chose qui limite mécaniquement le nombre d'annonceurs, c'est que pour le moment, il n'y a pas de capacité de mesure. Autant on est capable de surmesurer sur la télé, autant pour le moment, on y va jusqu'en 2023, on y va de façon un peu aveugle. Donc c'est un effet de nouveauté qui va plutôt enlever de l'argent au display, plutôt enlever de l'argent au digital, pas à la télé, parce qu'encore une fois, l'écart de prix est trop important et l'incapacité de mesurer est trop importante. Donc ça va plutôt prendre dans l'enveloppe digitale plutôt que prendre dans l'enveloppe télé comme ils l'espéraient au départ.
En parlant de télé, le projet de fusion entre TF1 et M6 a été abandonné, donc moins d'inflation prévue sur le marché de la télé pour 2023, comme la concurrence est maintenue. Quel est l'impact sur la croissance de cet abandon de projet ?
Vous l'avez très bien dit, à court terme, une baisse de l'inflation auquel le marché s'attendait, et du coup on a révisé nos chiffres d'à peu près 4 points par rapport à l'étude précédente, parce que effectivement l'effet de concurrence entre TF1 et M6 qui était exacerbé jusque-là va continuer à jouer. Après, à plus long terme, à titre personnel, c'est un motif d'inquiétude, parce que encore une fois, quand on en est à se dire que 90% de la croissance du marché publicitaire part chez des acteurs qui ne produisent pas de contenu, mais profitent du contenu des autres, il y a un moment, j'appelais de mes voeux, à long terme, pour le bien du paysage média français, que deux acteurs s'unissent pour pouvoir investir plus dans des contenus pour permettre d'enrayer la baisse des audiences télé. Or, on se retrouve avec deux acteurs qui vont rester seuls, sans projet industriel nouveau, et qui vont continuer à lutter contre les gros acteurs digitaux qui captent 90% de la croissance du marché publicitaire. À terme, c'est quand même un problème.
Il y a un retour aussi à la télé, c'est celui de la Star Academy. Est-ce que il y a un engouement de vos clients pour ce nouveau programme, choix audacieux de TF1 d'ailleurs.
Rapidement, parce qu'on a terminé.
Ça, il y a eu une forte demande. Les premières audiences d'ailleurs de la première émission sont plutôt assez satisfaisantes. C'est tout ce qui sera nouveauté et format événementiel réunissant une audience familiale. sera appelé des vœux et un peu nouveau, que ce soit pas tout le temps les mêmes shows qui reviennent sans arrêt à la 14e version de The Voice. Au bout d'un moment, ça s'essouffle mécaniquement. Donc, tout programme familial de prime time en télé est évidemment extrêmement demandé par les annonceurs.
Merci beaucoup, Bertrand Baudichon. Vous êtes président d'Initiative France.
BFM Business, Hebdo.com, la chronique média.
Alors Frédéric, je lis dans votre lancement qu'on parle de striptease aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sûr de vous ?
Oui, Rebecca, je comprends que ça puisse vous étonner, mais en effet, je voudrais vous raconter l'histoire non pas d'un, mais de deux striptease, j'en rajoute, voilà. Cette histoire, elle commence il y a 40 ans, mais je vais commencer par la fin. Vous avez peut-être remarqué cette semaine des affiches sur lesquelles on voit une femme en maillot de bain affirmant « le 2 novembre, j'enlève le haut ». La révélation s'est faite cette semaine, quelques jours plus tard, et la femme semble avoir arraché en fait, le haut de l'affiche, jeu de mots, jeu d'images, je vous laisse apprécier la finesse, mais en fait, ça cache une autre histoire autrement plus spectaculaire.
Et là, vous faites votre propre teasing.
Ouais, c'est exactement. C'est toujours mieux qu'un striptease, en tout cas en ce qui me concerne. Et pourtant, c'est bien de ça qu'il s'agit, car ces visuels, en fait, qui ont été réalisés par une agence qui s'appelle LGM & Co, pour annoncer le changement de nom de l'afficheur Exterion qui reprend son nom historique de Giraudy, cette campagne, elle fait référence à une campagne, elle, vraiment historique, ça remonte à 1981, et elle a fait parler toute la France. Cette année-là, ce moment-là, une jeune femme qui s'appelle Myriam apparaît sur tous les murs de France en maillot de bain, dans la même pose qu'aujourd'hui, et annonce que, elle, quelques jours plus tard, elle enlèvera le haut, et le jour dit, en effet, elle apparaît seins nus sur des milliers de panneaux en France. Tout en annonçant qu'elle enlèverait, quelques jours plus tard, le bas, et c'est ce qui se passe. Elle enlève le bas, sauf que évidemment c'est de dos, et la signature est à venir, l'afficheur qui tient ses promesses. C'était la première fois qu'on arrivait en France à changer des affiches dans tout le pays, des milliers d'affiches dans tout le pays.
Merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine en direct, même heure, même endroit, mais aussi sur nos réseaux sociaux et puis en replay sur le site de BFM TV. Très bon week-end. We'll be right back.